Bienvenue au Hackfest Podcast numéro 9. Cette semaine, nous sommes avec Steven et Richer.
Bonjour.
Et moi-même. Patrick étant absent cette semaine. Encore. Ça arrive. Il y a des obligations. On commence cette semaine avec une section de patch, puisque cette semaine, on a eu tout un dégât de patch. VMware ESX a patché. La librairie XML est cassée. Oracle pré-relay, c'est que préparez-vous à patcher vos Oracle parce que vos données sont là. Le fameux Black Tuesday July, patché énormément. Microsoft a corrigé beaucoup de problèmes. D'ailleurs, on fait disparaître les gadgets dans, à partir de Vista disparaissent.
Ouais.
Je pense qu'il y en a comme ça.
Ouais, non, ça, de toute façon, ça ralentit une machine plus que d'autres choses, cette affaire-là. Donc, c'est une bonne affaire de pouvoir enlever ça. Moi, je trouve que c'est un gros plus.
Microsoft, dans les séries de patch, il a révoqué 28 certificats, puis il a complètement revisé sa façon d'utiliser ses clés d'encryption et ainsi de suite pour, en fond, un peu répondre aux problèmes que Flame avait soulevés. Vous avez des opinions là-dessus?
Bon, je te dirais, c'est une bonne affaire qu'il ait pu faire du ménage au moins comme c'est là, et de pouvoir... Comment faire le nettoyage dans leurs choses comme ça. Si on peut revoir comment ça fonctionnait pour voir les trous de sécurité, ça a quand même du bon. Là, parce que c'est sûr que le monde faut qu'il update, par exemple, mais au moins, ça peut avoir du bon.
Non, on est d'accord quand Microsoft fait quelque chose pour rendre leur truc plus sécur. C'est toujours une bonne chose.
Oui,
effectivement.
Je veux dire, on peut pas... la seule chose que j'aime pas de Microsoft, c'est qu'ils font pas assez de out-of-cycle patches pour des fois... essayer de combattre ces genres de troubles-là, mais au moins, ils sont consistants. C'est une centaine par mois.
Ils sont mieux qu'avant. Ils sont pas mal mieux qu'avant.
Oui, il y a eu une grosse amélioration. Si on remonte à XP avant Service Pack 2, là, c'était infernal.
Exact.
Maintenant, c'est bien. Là. Windows 7 est quand même assez robuste. Là.
Ouais. Moi, je préfère updater mon OS à toi et moi avec Windows que... un moment donné avec mon Mac.
Un moment donné.
Non, mais dis-moi, je vais régulièrement, tu sais, j'attends toujours les updates. Tu sais, il y en a de temps en temps, non? Mais honnêtement, j'en ai pas. Je sais pas, mais j'aime mieux voir zero updates, de Windows updates, que rien d'avec un Mac. Fait que, non, toutes les fois Microsoft fait quoi pour leur OS, il faut les applaudir.
Non, non, mais ça, ils ont fait des grands pas, là, depuis quelques années.
Ouais. Fait que poursuivons. Maintenant, Cisco, tout son kit de téléprésence, il y a eu plusieurs patchs qui ont été distribués, donc ça aussi, c'est de plus en plus utilisé. Je ne sais pas si ça inclut tout le volet WebEx, mais toute l'affaire de téléprésence de Cisco est à corriger. Puis étant donné que c'est en très grand déploiement, c'est une bonne chose que les gens appliquent. Cisco, généralement, avec leur dernière bévue de Link 6, les chansons doivent être un peu frileux à updater. Donc, ça compléterait la section pour les patchs.
Parfait.
On a encore cette semaine une section pour les leaks de mots de passe.
Il y a quelqu'un qui s'abonne à ça.
Oui, puisqu'on a deux champions cette semaine, Yahoo et Formspring, qui chacun a perdu à peu près 400 000 mots de passe chacun. Par des méthodes qui... Parce que du moins pour Yahoo, les informations préliminaires étaient assez simples. Il semblait que c'était juste une injection SQL qui a dompé les mots de passe. C'est un petit peu ordinaire.
C'est triste.
Moi, honnêtement, je ne savais pas que Yahoo avait autant de users.
Oui, mais ça c'est la blague classique. Là. Sur Twitter, ça a déliré sur le fait que 400 000, comme hey, tu avais du monde chez Yahoo.
Oh, mais c'est tous des comptes Flickr.
Mais moi, ce que j'ai trouvé drôle, c'est la manière que Yahoo a comme je ne veux pas dire publicité ça, mais il y en a même qui en ont parlé un petit peu, c'est même pas 5% de... C'est comme, it's okay. Il n'y en avait pas tant que ça, en réalité. J'aurais aimé, tu sais, je sais pas, j'aurais aimé ça un peu plus de, oh crap, t'sais, on va faire quelque chose. On va s'arranger. On est désolé. Mais non, it's under 5%. Il me semble que... Anyway.
Bon, c'est des tactiques de PR, de minimiser les... l'impression des gens comme quoi c'était grave ou pas. Je vais leur donner ça, mais en même temps... Mais ça fait un peu suite au rant qu'on a eu sur Twitter vendredi, je pense. Jeudi soir. Sur, moi, je suis allé sur Bcrypt, puis là, tu...
Ah, OK, oui, excuse-moi. Non, mais il fallait préciser le rant, hein.
Oh oui, c'est pour ça que je précise.
Je m'en souviens de ce rap-là.
Dans le fond, tu sais, c'est l'usage d'un bon algorithme fait que les mots de passe ne sont pas retrouvés trop rapidement, même s'ils se font leaker. Puis comme ces temps-ci, ben, tout se fait leaker. Au moins, ton mot de passe, minou 1, 2, 3, ne sont pas retrouvés dans les 5 premières minutes. Là.
Non, mais c'est moi, j'ai jamais compris ce bout-là quand le monde il s'inquiète pas là, de ça, de ne pas utiliser des mots de passe. Plus complexe ou. Ah, je veux dire, Colin, c'est. Ça me frustre. Non, 1, 2, 3, 4, 5 ou password. Je sais pas, t'avais-tu checké, là, mettons, pour LinkedIn, je sais qu'on va probablement revient trop loin, là, mais les noms de simple passwords qu'il y avait là-dedans?
Non, j'ai pas regardé spécifiquement, j'ai lu des méta-analyses, puis c'était pas.
Il y avait un bon pourcentage de 1, 2, 3, 4, 5, 6 et de password écrit de manière. Sans lead speech, etc. Puis là, je n'ai pas checké pour Yahoo. Quand je me dis que c'est la même affaire.
Ben oui, c'est les mêmes humains.
C'est les mêmes humains,
oui. Tu peux pas changer ça. C'est un éternel problème. Mot de passe, c'est un mécanisme imparfait pour faire ce que ça doit faire. Donc,
Mais ça serait pas un petit peu la responsabilité aussi du pourvoyeur du service X, en ce cas-ci Yahoo, de mettre un minimum plus strict? Est-ce que ça serait si méchant ou, de faire ça? Non, il faut que tu aies des chiffres, il faut que tu aies des caractères spéciaux, il faut que tu aies au moins X nombre de caractères avec minuscule, majuscule. Pis...
Ben, c'est tout étant relatif, ce genre de politique-là n'est pas efficace contre les casseurs de mots de passe, comme on va voir dans le cas de Leak, par exemple, parce que tous les outils modernes écrivent déjà, ils refont de la mutation de caractère justement pour convertir le lead speech et ces affaires-là. Fait que c'est déjà tout connu. Fait que, ou puis rajouter un 1 à la fin. Ou c'est bon. Tout le monde le fait. Tu te pas la tête. Tu changes un mot de passe à tous les mois. Ben, 1, 2, 3. Mais tu sais, c'est pas... personne n'aime ça, là, changer son mot de passe à tous les mois. Puis sur la sécurité autant que les autres. Là, c'est pas... Fait que tu sais, je suis aussi coupable que les autres d'avoir des structures de mots de passe qui sont... peut-être pas très efficaces. Ben, sont assez efficaces parce qu'elles sont assez longues. Puis généralement, je suis des choses pour m'aider comme One Password. Là, mais,
One Password, c'est le fun, oui.
Ben, sinon, je ne suis pas mieux. Là. Sinon, si je n'ai pas One Password, c'est pas un mot de passe de 20 caractères aléatoires que j'utilise. Ouais. Ben, avec One Password, oui, c'est des 20, 25 mots de passe, 25 caractères aléatoires, chiffres, lettres, symboles. Avec ça, c'est impossible à craquer dans un lifetime. Mais ce que je dois me rappeler dans ma tête, c'est plus...
Ça amènerait à la discussion de à quel point qu'un password, c'est vraiment efficace. Ouais. La réponse, ça serait ça ne l'est pas.
Très peu. C'est très peu efficace. Ça. C'est pas c'est un mauvais plan. L'humain est naturellement pas apte à bien gérer ça. Fait je me demande pourquoi on s'obstine à essayer de forcer les utilisateurs à faire quelque chose qu'ils ne seront jamais capables de faire vraiment. Parce que, tu sais, je veux dire, t'essaieras, toi, de retenir un mot de passe aléatoire de 15 caractères de long. Là. C'est un exercice de style, là, mais si tu dois faire ça tous les mois, le style, t'es un peu tanné, là.
À m'amener aléatoire ou non, ça ne l'est plus aléatoire parce que tu vas prendre une séquence une séquence de touches qui tu vas te souvenir, puis probablement il se retrouve déjà dans un word list à quelque part ou quoi que ce soit.
Ben, tôt ou tard, oui.
Donc, c'est. Non, ok, cool. Non, mais ben, en fait, quand je comprends plus mon ancien poste, il me disait que ça valait pas la peine de mettre un mot de passe difficile.
Ben, là, il faut être relatif, là, parce que si même Minou, ou le nom de sa femme, ou le nom de son char, ou le nom de son chien, ça, non, parce que ça, tu vas le gosser d'une autre façon. Mm. Parce que tu as deux avenues d'attaque. Soit tu vas avoir les haches qu'ils vont avoir à cause des leagues. Là, tu vas les passer dans un bout de forceur comme John the Ripper ou LC5. Puis là, les mots de passe vont t'apparaître. Ou tu vas social engineering le gars, puis tu veux savoir finalement c'est quoi le nom de son chien, sa femme, son char, tout ça. Puis tu essaies tranquillement les mots de passe sur son compte, puis tu vas le trouver. Puis probablement, si ton attaque est dirigée, tu vas le trouver en moins d'une semaine. Donc, si tu veux vraiment casser, c'est pas très. Il n'avait pas tout à fait raison, parce que lui, probablement, c'est ça qu'il devait faire, prendre le nom de ça. Mais ça, je pense que la farce, c'est cette semaine, ça a roulé sur Twitter là, qu'il fallait que tous les noms des chiens devaient avoir au moins un chiffre puis un symbole spécial dedans.
Je m'en souviens de celle-là.
Elle est passée cette semaine, mais tu sais, c'est à peu près c'est dans cette perspective-là. Comme les gens utilisent le nom des chiens, mais d'abord, on mettait un chiffre puis un symbole spécial dans le nom de votre chien.
C'est bon, t'as le nom de ton chien en lead speak. Ouais, mais ça, elle est bonne.
Puis c'est valide par rapport aux politiques de mots de passe qu'on a, fait que ça marche.
C'est pas pire.
Le niveau du hack qu'il y avait eu sur les drones avec les GPS, il y a eu une correction qui est apparue disant que finalement, le drone n'appartenait pas au DHS, mais il était un drone qui appartenait à l'université qui a fait l'expérimentation. Fait que ça vient peut-être un peu réduire la portée de la nouvelle qu'il y avait eu 3 ou 4 semaines, je crois, sur la vulnérabilité qui est associée, parce que probablement que les drones du DHS utilisent effectivement des satellites militaires au lieu des satellites civils, donc ils ne doivent pas être aussi faciles que ça à détourner. Fait que passons à la nouvelle suivante, qui est Attacking Fans, qui est finalement, un regard amusé sur le fait que la frontière entre les États-Unis et le Mexique ont installé une clôture haute technologie, surveillance, tout ça, pour empêcher le trafic de la drogue entre le Mexique et les États-Unis. Et finalement, les trafiquants ont trouvé un moyen pour contourner ça, qui était un peu moyenâgeux, et ont utilisé une catapulte pour faire transférer les choses d'un côté à l'autre. Donc, ça a l'air que même des moyens très anciens sont encore très efficaces contre des technologies modernes.
C'est vraiment bon.
C'est pas parce que quelque chose est vieux, ça veut dire que ça peut pas être appliqué encore aujourd'hui.
Entre autres, mais c'est dans le fond, c'est de jamais sous-estimer l'imagination de l'attaquant.
Non, ça,
puis,
c'est ça.
Puis l'attaquant ne se plie pas à tes règles, il se plie à aucune règle, finalement il va faire ce qu'il faut pour arriver à ses fins.
Oui, non, c'est ouais, il ne faut jamais sous-estimer, il ne faut jamais garder cette solution-là serait beaucoup trop stupide ou trop far out pour être même considéré, puis en réalité, prendre une catapulte. Un trébuchet ou une catapulte?
Là, tu disais catapulte. Attends, un trébuchet, c'était quand même un peu trop loin. Là.
Il faut y aller avec une fronde, tant qu'à faire.
Hey, un trébuchet, ça prend du temps à monter une catapulte. Au moins, tu la roules, puis le trébuchet, faut que tu l'installes.
Ouais, mais c'est...
Non, ouais, hey, puis t'as du poids sur un trébuchet, parce que c'est du transfert de poids. Une catapulte, ouais, c'est juste un spring.
Ouais, non, je sais bien, mais on parle de dope aussi, là. Tu veux quand même en envoyer le plus possible.
Oh, ben, tu fais une coupe de voyage.
tu recrains ta catapulte 2 ou 3 fois.
Mais t'imagines ça, le gars, il commence à trouver ça derrière de son char. Brrr, il transporte ça. C'est quoi ça? Oh, c'est rien d'important. Il met une grosse toile bleue là-dessus. Il met une bâche. Oh, blague.
Je vais avoir un reenactment d'une guerre médiévale. Là. Ok, sir, go right ahead.
Ça, c'est pas pire. Faut pas sous-estimer l'imagination.
Ah non, c'est bon, c'est excellent.
La nouvelle suivante, c'est bien là, c'est dans le fond, la nouvelle dit que c'est Actual Attack Vector, mais dans le fond, c'est l'utilisation de clés USB qui laisse traîner dans un stationnement pour casser la sécurité des entreprises. Ce qui est nouveau dans cette nouvelle, c'est que maintenant les criminels utilisent cette façon-là pour à infecter les ordinateurs d'une entreprise pour aller chercher des secrets et aller chercher de l'information qu'ils peuvent revendre. On change au suivant. Puis, ouais. Qui est un autre sujet qui est assez cool parce que c'est comment hacker une BMW en 3 minutes puis se sauver avec.
Justement, besoin d'un nouveau char, mais ça tombe bien.
Ben oui. Mais c'est juste le problème, c'est que tu casses la vitre, par exemple. Fait que tu peux faire réparer ça. Là. T'as quand même des frais.
J'ai même pas d'argent pour pouvoir réparer une vitre. Fait que moi, laissez faire ça.
De BMW, vous savez. Honnêtement, moi j'irai avec la Civic pareil.
T'en revends, dans le pire. Mais dans ce cas-ci, le cas de BMW, c'est que ce qui a été découvert, c'est qu'on est capable, en se branchant sur l'ordinateur de bord, en rentrant en mode diagnostic, de domper l'identité de la clé. Donc, de recopier cette clé-là sur une clé vierge, puis donc de démarrer l'auto par la suite sans aucun problème. C'est assez simple. Comme
tu disais, le mode diagnostic n'a pas de mot de passe non plus. Hein.
C'est ça. C'est accessible facilement.
Quand c'est tu sais où, assez simple. Si tu as déjà une clé vierge sur laquelle tu peux le mettre dedans.
Ouais, ben là, quand tu voles des autos, c'est tu t'improvises pas, là. Généralement. Mettons, là, moi, je ne remonterai pas un vendredi soir comme ça à improviser, là. Tu fais, ouais, man, avec les jobs, ah, on fait tout ça. Ça, c'est plus des professionnels. Puis, donc, ils savaient où était le chose pour brancher le câble diagnostic. Il y avait les logiciels. Il y avait une clé vierge entre les mains. Donc, c'est pas.
Mais ça, il n'y avait pas une vidéo qui a rapport avec ça, qui montrait comment que c'était fait en si peu de temps. Un surveillance cam, quelque chose?
Oui, la caméra de surveillance a effectivement filmé ça. C'est ça, tu vois peut-être pas nécessairement avec précision, mais tu vois assez bien.
Tu vois le concept du fait qu'ils ont rentré et ils ont sorti.
Oui, tu vois le concept qui va avec ça. C'est pour ça que ça s'est su finalement là, que. Ils ont été attrapés avec une caméra de surveillance. Mais c'est ça, ils ont juste vraiment plugué. Mais tous ceux qui sont des taponneux de char doivent avoir accès à ces logiciels-là d'une façon ou d'une autre. Puis doivent savoir où sont où brancher le câble.
Ben, c'est quoi? C'est au DB2, je pense que ça s'appelle. C'est quand même. Toutes les autos après, je pense que c'est quoi, c'est 96, 97, ouais. Qui ont ce connecteur-là. Puis oui, c'est extrêmement facile de trouver le hardware et le software pour aller ta marque d'auto.
Ouais.
Pouvoir aller. Bon, il y en a que tu peux pas programmer que dalle, puis il y en a que tu peux. Ouais. Fait que, donc, honnêtement, je ne suis pas surpris que ça se fait. Je suis surpris que ça a pris autant de temps que ça se sache dans le mainstream media.
Ce que je trouve intéressant, c'est que dans l'ordinateur de bord, il y a le numéro de série de la clé qui est là. Qui permet de doubler la clé en ayant accès à ça. Ça, c'est juste l'aspect que je trouve étonnant, parce que dans le fond, c'est comme laisser ta clé dans ton auto en espérant que. En espérant que personne ne se sort avec ton auto.
Ben, c'est convenience. Si jamais tu perds ta clé, t'as le gars de BMW qui arrive dans ton char, tu cliques clic, tu viens de perdre. C'est probablement ça la procédure pour te donner une nouvelle clé.
Ben, en tout cas, l'apparence, oui, parce que si je me fie à ce que j'ai vu ailleurs, normalement, tu dois donner le numéro de tiré de ton auto à ton concessionnaire. Il y a un protocole normal qui assure que il n'y a pas trop de gens qui peuvent mettre la main sur la clé de ton auto. Hein.
Oui, mais c'est. Fait qu'en fin de compte, leur clé dans leur char en permanence.
C'est ça. En tout cas, chez BMW, ça a l'air d'être comme ça. Chez les autres, on va probablement en entendre parler dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Mais dans le cas de BM, ta clé est dans ton char.
La technologie, c'est bien le fun des fois, là. Mais c'est ça qui arrive quand tu commences à l'intégrer un petit peu trop partout. À mon avis, là.
Ouais, puis c'est parce que tu ne réfléchis pas aux conséquences. Les raccourcis qu'on prend en technologie ont souvent des conséquences en sécurité qu'on voit pas. Ou on prend pas le temps de voir, plutôt.
Ouais. Et si on y pensait un peu plus longtemps avant même de l'implémenter, bon, le conçoit, on va y penser. S'ils faisaient ça, je pense que quoi, 50% de tout ce qu'on utilise ne serait pas sur le marché.
C'est ça. Changeons de sujet.
Oui, excuse.
Sur les banques canadiennes qui veulent développer un portefeuille virtuel dans lequel, dans le fond, on va regrouper l'ensemble de nos informations bancaires, toutes institutions confondues, dans une espèce de portefeuille unique. Ce qui m'a fait. Je trouve l'idée super fun parce que ça vient simplifier énormément notre vie. Ça s'inscrit un peu sur ce que Apple est en train de faire avec son iWallet, je sais pas, son iPass machin, qui va sortir sur iOS 6. Puis le problème chip NFC qui va arriver, puis ainsi de suite. Sauf que c'est le mot rushing to offer qui est agaçant, parce que généralement, quand tu dépêches, puis là, c'est ce qu'on disait, quand tu dépêches d'envoyer des choses sur le marché, généralement, la sécurité prend un rôle très secondaire. Donc, on va exposer des choses sans le vouloir.
Un virtual wallet, est-ce que là, ça va être une banque m'offrirait... Ça, c'est quoi la différence entre ça et le site web que ma banque m'offre?
Ça regroupe l'ensemble de tes informations bancaires à un seul endroit. Toute banque déconfondue. Peu importe la banque que tu as, ou si tu en as plusieurs, vont tout être dans un même regroupé, dans un même portefeuille. Puis, ce portefeuille-là est le lien entre ton argent, finalement, et le marchand.
C'est ridicule.
Ce qui fait que, dans le fond, l'institution bancaire qui va détenir le portefeuille, c'est lui qui exécute la transaction à ta place chez le marchand. Puis, donne l'argent, ton argent chez le marchand.
C'est un genre de escrow. Okay.
Parce qu'il parlait beaucoup de protection de la vie privée, le transfert d'informations qui est limité entre le marchand et la banque, tout ça. Là. Mais les informations, je n'ai pas été en profondeur, fait, je ne sais pas exactement où c'est implanté. Il ne parle pas de technologie spécifique, fait que c'est difficile à savoir où ça s'en va.
Mais c'est... Ah. Moi, je ne suis pas un fan de tout mettre ses œufs dans le même panier. Mais je veux dire, écoute, moi, ma banque. Je veux même pas que j'aie un password aussi compliqué que Facebook. Fait que moi, c'est sûr que je... Wow. Écoute, si on me force à utiliser une affaire de même, parce que là, déjà, ils m'ont forcé à utiliser des cartes à puce, hein. Moi, c'est je vais arrêter d'utiliser les banques.
Mais cartes à puce, c'est une bonne chose. Ça, c'est une amélioration sur tout le clonage des cartes. Là. Ça, c'est bon. Ça a des choses. L'étape qui est discutable, c'est l'ajout du RFID sur les cartes.
Ben, je sais pas, ils n'ont pas arrêté plusieurs personnes récemment à Montréal pour du clonage de cartes.
Oui, et du clonage de cartes conventionnel.
C'était conventionnel?
Oui, pas carte à puce. Ouais. Du clonage de carte à puce, c'est plus complexe. Puis tu peux pas juste commencer à swiper ta carte et cloner.
Moi, des affaires que j'aime pas de la puce, puis je veux pas trop partir du sujet, là, mais carte à puce, ma carte de crédit. Moi, je la passe. Ils checkent jamais la signature ou quoi que ce soit. Fait qu'ils savent même pas si je suis vraiment le détenteur de la carte. C'est une raison de plus pourquoi moi, je ne l'aime pas. Anyway.
C'est ton NIP qui sert la signature.
Ouais. Entends-tu que c'est quand même... Je me fais redopper, je me fais poigner dans un
Ouais, mais ta signature, elle vaut rien si t'as ton slip de carte de crédit. Mm. Tu signes à ta carte.
Oui, mais normalement, ça serait vérifié ta
carte. C'est absurde parce que ta signature est en arrière de ta carte. Le commerçant va vérifier ce qui est en arrière de la carte. Et toi, si tu as une carte de quelqu'un d'autre, tu as vu la signature que tu dois imiter. Fait que c'est pas un bon.
C'est pas foolproof, ça, je suis d'accord, mais c'est mieux que rien.
C'est pour ça que je marque mon arrière demander carte d'identité.
Oui, moi, c'est la même chose.
À place de marquer ma signature. OK.
Je fais ça, mais je te dirais que j'ai pas beaucoup de marchands qui me demandent ma carte d'identité.
Ah, mais je suis content à chaque fois qu'il y en a un qui me le demande, puis je leur dis. Parce qu'autrement, là, moi, je les félicite. Là.
Ben, la même chose, mais je suis toujours étonné parce que, tu sais, c'est vraiment OK de demander carte ID. Ouais. Là, la personne, elle regarde ma signature, elle regarde ça, elle me redonne ma carte.
Tu n'as pas le temps de regarder.
Tu vois, dans la série, il y a comme un moment d'incompréhension de ce qui se passe. Ça a l'air de ne pas lui tenter d'aller plus loin que ça. Ça fait comme « Ah non, c'est quoi cette zouf-là? Ah, on donne sa carte. »
Ah, c'est triste pareil.
Moi, j'ai rentré le mauvais NIP 3 fois sur ma carte de crédit, puis j'ai pas renouvelé le NIP. Fait que à cette heure, peu importe ce que j'utilise ma carte, ma signature est demandée. Puis quand même assez régulièrement, étant donné qu'eux autres sont plus habitués à ce temps-là. Mm-hmm. Hey, what the hell, ils demandent une signature. Ils disent, ouais. Fait qu'ils vont, ils gardent ma carte, puis bien souvent, ils checkent à cette heure. Ils sont surpris à cause, waouh, ça demande une signature. Pourquoi, tu sais?
Pourquoi ça, une signature? Le monde va être rendu comme ça.
Ouais, ça veut dire ça. Mais bon.
Ben, c'est sûr, dans un contexte où, tu sais, il doit afficher le terminal, afficher demander signature. Là, ça doit faire comme eux. C'est quoi ça, cet argument-là?
Je prends la puce, puis ça demande signature. What the hell? Fait que, ben, j'ai bien hâte de voir ça. Ben, non, j'ai pas hâte de voir ça, le Virtual Wireless, mais j'ai hâte de voir le trouble que ça va faire. Parce que, personnellement, j'espère que ça sera pas forcé sur nous ou quoi que ce soit. C'est rien que ça que j'espère.
tout est généralement forcé sur nous, fait que...
Mon matelas va redevenir ma banque.
Peut-être. Ouais, ça n'existera plus, ce gars. Les nouveaux 10, les nouveaux 50 et les nouveaux 100, ils fondent au soleil.
Okay, pour une seconde, je pensais que tu me disais que ça allait plus exister, les matelas.
Non, ça va. On a encore besoin de se coucher, mais les 100, les 50 et les 100$, ils fondent au soleil. Wow. Ouais, soit...
Moi, je le testerai pas, hein, mais...
Ça ressemble plus à du sensationnalisme, là. Mais il semblerait qu'il supporte mal la chaleur.
Oh, ben, il a fait chaud dernièrement, c'est pour ça.
Oui. Non, mais c'est sûr que si tu mets une flamme vive sur un biais de... Peu importe, il va prendre en feu.
Oui, mais tu sais, on s'entend, un 50 et un 100 piastres qui était au soleil qui a fondu, quel zouf va laisser ça au soleil? C'est juste pour un test, j'imagine, parce que tu laisses ça sur ton dash de char, tu laissais des cassettes sur le dash de char, puis les tunes, ils ressemblaient, ça faisait des tunes bizarres après ça, là, fait que, tu sais, on s'entend, là, le tape commençait à tirer, c'était rendu des 300 minutes, là, fait qu'on s'entend, le rendu là, fait que quel épais irait faire ça à mettre son 50 piastres là-dessus? Ben, en tout cas, ça, c'est mon rent.
Non, ben, ça serait quand même fun d'entendre une nouvelle, je veux dire, suite à une canicule, le Canada est dans une crise économique.
Tous les billets de 100$ ont tous
fondu. Ont tous fondu dans les poches des personnes.
Ah, c'est terrible.
C'est n'importe quoi.
Oui, donc, passons au suivant, comme c'est n'importe quoi. Le Russian hacker, un Russe qui a réussi à contourner le contrôle de sécurité sur l'achat d'applications dans les applications sur le iOS, ce qui fait que maintenant, avec une petite formule, on est capable d'acheter sans payer dans ça. Fait que j'imagine que Apple va adresser le problème assez rapidement, mais c'est intéressant de voir qu'il y a plus de gens qui s'intéressent à contourner cette plateforme-là, en tout cas les contrôles de cette plateforme-là pour leur gain personnel, finalement.
Bon, ben c'est... Moi, j'ai rien.
T'as rien. T'as rien à redire. C'est bien ça. l'autre, jQuery 2 va retirer du support pour Internet Explorer 6, 7 et 8, puisque selon les concepteurs c'est quasiment rendu un framework, la grosseur que c'est rendu, ont décidé de ça parce que la façon que les ugly hacks sont utilisés pour faire fonctionner ça sur ces trois plateformes-là alourdissent énormément le code puis enlève un peu la souplesse qui va l'amener en version 2. Fait qu'on a décidé carrément de les abandonner. Donc de sauter à partir de la version 9 seulement sur Internet Explorer. Cela dit, il y a une version 1.9 qui va être développée, qui va continuer le support pour ces vieux navigateurs web-là, qui va offrir les fonctionnalités, mais n'offrira pas les avantages de la nouvelle plateforme, donc la vitesse et puis une certaine souplesse augmentée.
Ah, j'en reviens pas. Non, ben c'est une bonne idée de dropper... c'est toujours une bonne idée de dropper EI6, hein? Mais continuer à avoir un fork development pour continuer à le supporter, c'est ridicule, ça.
Ben, c'est le fork, et dans le fond, c'est que les nouvelles fonctions, ils vont conserver les fonctionnalités, ils font juste changer la façon que le code fonctionne d'un à l'autre, dans ce cas-ci, puis ils vont arrêter de mettre du développement actif sur la version 1.9.
Mais on s'entend qu'à quelque part, on a beau trouver que Internet Explorer 6, c'est très vieux, mais il y a encore, si on regarde dans des logs, des statistiques de web analysis là, pour un site web, bien souvent, les hits, tu vois souvent ça encore, qu'il y a beaucoup qui sont sur Internet Explorer 6 encore. Fait que, tu sais, malheureusement, c'est encore très populaire. Fait que, ils se couperaient pas mal du monde, puis il y aurait moins de chances de pouvoir utiliser. Les personnes utiliseraient moins ce framework-là. Là. Fait que, d'un côté, c'est plate, puis ils sont un peu.
Ah, ben, c'est la seule raison pourquoi ils se supportent encore, c'est pour pouvoir atteindre le plus de gens possible.
Oui, ben c'est ça. C'est parce qu'ils sont un petit peu, comment je pourrais dire, là, finalement, ils, ouais, je trouve pas le mot. Là.
Parce qu'ils veulent mettre entre les mains des sites web la décision de dropper le support pour ces plateformes-là, plus que, dans le fond, dans eux comme développeurs.
Oui, c'est ça. Ils poussent, mais ils veulent pas obliger tout le monde. Mais ils veulent... c'est un beau clin d'œil, je trouve.
Ouais.
Mm.
Oh, oui.
Si le monde pouvait juste utiliser Lynx, c'était tellement
masque. Oh, mais ils ont trouvé des failles dans Lynx aussi, fait que pas ouais. Mieux. Prends WGET. Ah non, WGET aussi.
Ah, on OK. On va faisons ça en Telnet, un coup parti.
Ah,
d'accord. On a mis sur le web en Telnet.
Un Telnet dans un email, comme dans The Net, avec Sandra Bullock.
Oh là là.
Ah oui, c'est dans
ce là
que
t'es
dans un email.
Oui, exactement. Bon, OK.
C'était assez violent. un former analyste du Pentagone dit que 80% des réseaux télécoms ont un backdoor par la Chine.
Mm.
Et la réaction à ça, c'est que 100% des télécoms sont un backdoor américain. Ça, c'est des choses qui sont généralement dures à prouver parce qu'on n'a pas accès à l'information. Puis si l'information devient disponible comme celle-là, il y a des agendas cachés en arrière. Donc, il faut prendre ça avec des...
un grain de sel.
Oui, des pincettes. Puis, donc, mais ça fait juste relever le fait que la plupart des réseaux télécoms ne sont pas sous notre contrôle puis que c'est public. Alors, on est mieux de protéger les informations comme il se doit.
Ouais.
Nouvelle suivante, Charlie Miller va sortir un talk au Black Hat qui va parler du NFC, le Near Field Communications, qui est dans le fond l'espèce de nouvelle mode de vouloir payer avec nos téléphones cellulaires avec une chip qui parle pas loin. Comme Near Field, c'est qu'ils sont très très proches en termes de proximité. Donc j'ai bien hâte de voir le ce qui va être étalé là. D'ailleurs, comme tous les talks qu'il va y avoir au Black Hat et au DEF CON, j'ai très hâte de voir ce qui va être discuté réellement là-bas. Là. Ça va être assez plaisant. Nouvelle suivante, le Web Exploit. Une nouvelle Web Exploit qui a été trouvée qui, finalement, analyse la plateforme sur laquelle le navigateur web est et va pousser un exploit expressément pour cette plateforme-là. Fait que pour les gens qui se croyaient invulnérables sur Mac et Linux, maintenant... vous êtes aussi ciblé, autant que Windows. Puis, il ne se base pas que sur le user agent pour envoyer son choix, c'est avoir un programme Java sur le poste qui exécute, qui détermine en fait la plateforme, qui renvoie, puis ensuite il envoie l'exploit en conséquence pour casser la plateforme puis l'infecter bien comme il faut.
Ça a été tout. Y a-t-il un POC de public ou quelque chose? Ou c'est juste un. Ça vient de où cette affaire?
Ça vient de où? Ça vient d'Internet. Ça vient d'Internet, si tout est vrai.
The interwebs?
Ouais, ça, c'est Internet, c'est vrai.
Ouais?
Non, c'est vrai. C'est Ars Technica. Ars Technica. Ah, si j'ai besoin de prononcer ça.
Ars Technica, oui.
Ouais.
Ah, OK.
Qui prononce la même chose, puis c'est F-Secure aussi qui ont vu ça passer. Là. Fait que c'est pas juste un gars qui traîne dans son sol, là, puis qui pense qu'il a vu quelque chose d'extraordinaire, là. Non, ça a l'air d'être des références assez solides.
Non, mais c'est quand même intéressant là, comme affaire. Puis comme on parlait justement, c'est pas juste basé sur les user agents.
Ouais.
Fait que c'est quand même poussé. Là.
Ça, ça s'en vient sophistiqué. Là. Fait que, trop d'autres moyens pour atteindre leurs objectifs. Là. Plus les systèmes avancent, plus les méchants raffinent leurs moyens.
Comme il disait, build a better mousetrap, they'll build a better mouse.
C'est ça.
Ouais, ça va toujours être ça. Hein. Ça va toujours être une roue sans fin, cette situation-là.
Exactement.
C'est pas...
Bon, on enchaîne.
Faut juste faire attention. C'est rien que ça que ça veut dire. Ça a toujours été le cas. Là.
Ouais, encore plus. Dernière nouvelle. Le DNS Changer, le FBI a fermé lundi dernier les serveurs DNS associés à ça. Il y avait une grosse panique comme quoi l'Internet allait arrêter de fonctionner, puis tout allait être grave, puis plus d'électricité, puis comme l'an 2000. Ça,
ouais,
ben, il s'est rien passé. Là.
Les avions allaient tomber en bas du ciel. Cats and dogs living together.
C'est ça. Fait que ça a eu un gros événement. Fait que comme on se parle maintenant, mais l'Internet fonctionne encore très bien. Les 300 000 personnes qui étaient pluguées sur ce DNS-là, donc on se retrouvait dans le DNS. C'est peut-être 300 000 chercheurs, finalement, qui utilisaient ça juste pour...
Ça serait pas pire, ça.
C'était peut-être juste des chercheurs qui utilisaient ce backdoor-là, qui utilisaient encore ce DNS-là pour faire des tests.
Mais tu vois, un autre exemple de comment les médias peuvent juste exploser quelque chose qui était rendu pas si pire que son réalité.
Oh oui, puis de toute façon, mais là, le problème situation ça est plus grave, dans le sens où qu'on soit arrivé à fermer un serveur DNS, ce genre de choses-là, c'est dole, là. C'était une mauvaise stratégie, mais ultimement, disons. Ça n'a pas été grave, le outcome, c'est réglé.
Oui, bon, ça, c'est, ils ont overestimated.
Oui.
Yes. Ils ont figuré. Non, ça ne se dit pas plus, ça.
Ils ont surestimé.
Ils ont surestimé l'impact que cela aurait.
Oui. Et voilà. Ça arrive souvent, ça, dans les médias.
Ah, oh, c'est un peu ça, le but des médias, non?
Il faut lui vendre la copie. C'est ça, le but des médias. Mais il faut vendre de la publicité, donc s'il faut qu'ils vendent de la publicité, il faut qu'il y ait du contenu qui attire du monde. Donc, un petit peu exagéré de temps en temps.
Ouais.
Ça arrive.
Ça arrive de temps en temps.
Ça arrive de temps en temps. On s'en fait pas. Donc, ça fait vraiment ça fait le tour des nouvelles pour cette semaine. Yes. Une première expérience pour Steven.
Avec vous autres, parce que j'ai quand même avec. Une expérience ailleurs dans d'autres affaires, mais
avec nous autres, avec le Hackfest. Dans le fond, c'est pas si nouveau ça. Avec Richie, il y a juste moi qui est nouveau dans tout ça. Dans le fond, c'est une vraie expérience pour moi de faire ce podcast avec Steven.
Je suis content que tu aies aimé Threesome.
Oui, ça a été divertissant.
Non, mais c'est ça. Moi, je suis un gars derrière scène présentement. Je m'attendais déjà à pas mal d'affaires. Fait que c'est pour ça que j'avais déjà une vague idée de la tournure des événements. Mais là, je voyais que, écoute, ça rentre au dos. Mais c'est bon, c'est excellent. Je trouvais ça bien.
Oh, ouais, c'est pas parfait. J'ai bien du plaisir.
Yes.
C'est ce qu'il faut. Donc, ça fait 5 heures pour cette semaine. Dans le fond, juste une petite shameless plug. La semaine prochaine, on va être... la semaine prochaine, dans le fond, le 23, on va être tous à Vegas, sauf Richer.
Non, moi, je suis pas là, effectivement.
On va enregistrer pour le 23, donc on va avoir un épisode la semaine prochaine. Mais par la suite, l'autre suivant ne sera pas là parce qu'on va être en voyage. Il va y avoir plein de choses qu'on va faire directement live là-bas. On va tweeter énormément live. On va essayer de bloguer live là-bas aussi. C'est assez difficile parce que la densité des conférences, tout ça, c'est costaud. Puis le DEF CON, t'as pas de pause. Ça commence à 9h le matin, ça finit à 6h le soir et il y a zéro pause. Rien pour dîner, rien pour prier. Donc, c'est un feu roulant de conférences et de connaissances.
Amenez-vous des shakes.
Ouais, ben faut trouver. Dans le fond, c'est le plus difficile, c'est de trouver la conférence moins le fun que tu veux pas aller pour aller manger.
C'est pas facile, ça, rendu là.
Faut vraiment, t'as 5 tracks, là, faut que tu choisisses là, le moment où tu vas aller manger pour. Faut essayer d'éviter les rushs parce que à 20 000 personnes, c'est infernal. Je regardais l'année passée, il y avait plusieurs restaurants, mais ça, j'ai trouvé ça très drôle parce que l'année passée, c'était la première année qu'ils faisaient au Rio. Fait que les organisateurs du DEF CON ont dit « Ouais, on s'attend à avoir 12 000 personnes ou 15 000 personnes. » Ils ont dit ça aux gens sur place. Ils ont fait comme « rapport ». Fait que sur place, on a vu effectivement que tous les restaurants ont comme pas compris qu'il y avait 20 000 personnes. Fait qu'ils étaient toujours, la plupart étaient toujours fermés ou étaient ouverts que pendant de très courtes périodes sur l'heure du dîner.
Ah.
Fait qu'ils ont comme pas catché qu'il y avait 15 000 personnes qui étaient là. L'espèce de cantine dans l'espèce de choses de Paris, à partir de, je pense, c'est 10 heures le matin jusqu'à temps que je quitte à 7 heures le soir, il y avait du monde en file pour aller manger. Non-stop.
Ah. Ils ont dû faire de l'argent cette fois-là.
Oui, mais j'ose espérer que cette année, ils n'ont pas fait comme 20 000 de rapport. J'espère faire comme là, ils vont mettre du monde, ils vont staffer les restaurants en masse pour. Parce que 15, 20 000 personnes, c'est du monde.
Ah oh, oui, non, c'est ça. Ça fait du monde à nourrir, puis c'est pas tout en même temps nécessairement. Là.
C'est ça. Fait que, j'espère qu'ils vont staffer comme du monde. Sinon, ben, ça va être super plaisant, on va faire ça là. Puis il va y avoir le Hackerspace du mois d'août qui devrait être annoncé, puis le Hack du mois d'août aussi qui devrait être annoncé incessamment. On a juste que quelques petites confirmations. Donc, ça fait le tour pour cette semaine.
Excellent. Merci beaucoup. À la prochaine.